Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle donc Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos. Et surtout, en cette nocturne, ou en ce début de soirée, ou en cette fin d'après-midi, modérateur de ce premier débat sur un sujet bien évidemment crucial. Banque, crédit, qu'avons-nous appris ? Qu'avons-nous appris de la crise dite des subprimes qui a éclaté l'an dernier ? Qu'avons-nous appris de la quasi-faillite d'une banque de Wall Street, Bear Stearns ? Qu'avons-nous appris de centaines de milliards de dollars déversés par les banques centrales ? Qu'avons-nous appris d'une crise de change qui a frappé le dollar, la monnaie du monde ? Qu'avons-nous appris des pertes potentielles des banques, j'insiste sur le mot potentiel, des banques et des autres institutions financières, des pertes qui seraient estimées à près de 1 000 milliards de dollars, selon une estimation du FMI, une estimation toutefois contestée. Avant de répondre, je voudrais d'abord dire comment nous en sommes arrivés là, et les intervenants qui sont là vont dire comment est-ce qu'on va en sortir. Deux points qui ont fait qu'on en est arrivé là. Premièrement, des taux d'intérêt qui ont été extraordinairement bas, aux États-Unis notamment. Ils ont été pendant 18 mois à 1%, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. La Réserve fédérale des États-Unis qui est donc aux États-Unis, donc au cœur du système financier mondial. Des taux d'intérêt comme on n'en avait pas vu depuis près d'un demi-siècle. Premier élément absolument clé à avoir en tête. Et le deuxième élément clé à avoir en tête, c'est l'innovation financière aussi extraordinairement imaginative. Alors l'innovation financière, c'est quelque chose de très actif. Il y a beaucoup d'innovation financière tout le temps. On a eu là une vague tout de même assez exceptionnelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Avec un point tout à fait extraordinaire, qui est le fait que les banques ont certainement, ou une partie des banques, ont cru qu'elles pouvaient se débarrasser du risque. Alors, vous savez, une bonne partie du métier des banques, c'est même d'évaluer le risque, de le porter. Et donc là, elles l'ont débité en petits morceaux et l'ont revendu en titres financiers. Ça s'appelait titrisation. Ça a été au cœur de la crise des subprimes, hein, ces prêts immobiliers accordés aux foyers américains peu solvables. On leur accordait beaucoup de prêts parce que les banques savaient ensuite qu'elles se débarrasseraient du risque qu'elles portaient dessus. Et cette technique qui existait déjà depuis une vingtaine d'années, mais qui s'est développée de manière absolument extraordinaire depuis le début des années 2000, a entraîné deux phénomènes clés. Le premier qui est un morcellement de la chaîne du crédit, c'est-à-dire que les gens qui prêtaient l'argent ne portaient plus le risque, et donc ils ont évalué de manière tout à fait différente le risque qu'ils portaient. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un et que vous savez, vous n'avez que vous préoccuper de savoir s'il va vous rembourser ou pas, vous ne regardez évidemment pas du tout de la même manière. Donc une évaluation de risque qui s'est faite de manière totalement différente, et puis ensuite un endettement absolument colossal qui a galopé. Alors, à chaque fois qu'on a une bulle financière qui sort, il faut se demander qui va s'endetter. Alors parfois c'est les États, parfois c'est les entreprises, c'est ce qu'on avait vu avec la bulle Internet, où les entreprises avaient c'était endettées tout à fait massivement pour acheter d'autres entreprises. Et donc, ce qu'on a vu pendant ces dernières années, ce sont les ménages qui ont emprunté de manière tout à fait colossale. Et aux États-Unis, alors toujours avec l'innovation financière, ils ont emprunté sur l'appréciation de la valeur de leur maison. C'est-à-dire que s'ils avaient une maison qui valait 100 000 $, si la maison s'appréciait à 120 000 $, le banquier disait « Ah, mais je peux vous prêter 15 000 $ de plus, et je vous le donne tout de suite, et vous me rembourserez, bien sûr. Et comme les taux d'intérêt sont bas, en plus, ça ne va pas vous augmenter votre mensualité. » Donc on a abouti là à un endettement absolument colossal qu'on a vu se retourner dès que le marché immobilier s'est retourné aux États-Unis, enfin pas dès que, puisque le marché immobilier s'est retourné aux États-Unis à l'automne 2005. La crise aiguë, la phase aiguë de la crise a éclaté en 2007, donc on a eu près de 2 ans entre le moment où le retournement du marché immobilier s'est produit et le moment où on a commencé à le voir dans le système financier. Et donc là, juste quelques points d'étape. Fin 2006, une banque d'affaires new-yorkaise, Goldman Sachs, décide de s'en retirer des produits les plus risqués. Avril 2007, la faillite de New Century Financial, tout un programme, hein, finance du nouveau siècle. C'était le deuxième prêteur en crédit subprime aux États-Unis. Il fait faillite. Juin 2007, 2 hedge funds de la banque Bear Stearns annoncent qu'ils sont en difficulté. Juillet, des banques allemandes ont de gros problèmes financiers, dont la banque IKB, des petites banques. En août, la BNP annonce qu'elle a des difficultés aussi sur des fonds, et ça crée une gigantesque crise mondiale de confiance. Les banques refusent de se prêter les unes aux autres. C'est une situation qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. Septembre, faillite de la banque anglaise Northern Rock. le premier bank run depuis les années 30. Le bank run, c'est les gens qui font la queue à la caisse de leur banque pour récupérer leurs fonds avant que la banque ne s'effondre. Et ensuite, la crise qui s'est étendue, selon l'estimation que Patrick Artus qualifie de Clumex, donc les 1 000 milliards de FMI, il y a même deux points marquants. Premièrement, les banques européennes perdraient presque autant que les banques américaines, alors que c'est une crise qui, au départ, est exclusivement américaine. Et un deuxième point intéressant, c'est que sur les 1 000 milliards, il y a 600 milliards qui sont sur le crédit immobilier, mais il y a 400 milliards qui sont ailleurs, qui sont sur les cartes de crédit, qui sont sur les LBO et LBO. C'est prêt aux entreprises qui se financent avec beaucoup d'endettement pour des rachats d'entreprises. Et donc, on a une crise qui s'est répandue dans tout le système financier, qui s'est traduit en point d'or en mois de mars, il y a donc deux mois, par la faillite de la banque américaine Bear Stearns, qui a été reprise en catastrophe par la banque JP Morgan. Donc c'est une crise qui est partie du cœur du système, alors que tout le monde prévoyait une crise qui partirait de sa périphérie. Depuis, eh bien, il y a des problèmes sur le crédit, il y a des problèmes sur la croissance, on commence à le voir aux États-Unis, on commence à le pressentir en Europe, et on voit que ça va se répandre dans le reste du monde. Alors, qu'avons-nous appris que nous ne sachions déjà ? Nous savions déjà que la finance n'est pas un métier comme les autres, que les gains sont souvent privés et les pertes toujours publiques. Et puis, nous avons plein de choses à apprendre encore. Les banquiers ont-ils fait ce qu'ils devaient faire ? La crise est-elle de leur faute ? Que faut-il changer pour éviter la prochaine crise ? Quel rôle pour les banques centrales ? Quelle nouvelle réglementation ? Et au-delà des questions plus fondamentales, la machine à crédit est-elle cassée ? Cette machine à crédit qui est au cœur de la mécanique de la croissance ? Peut-on se débarrasser du risque en le coupant en petits morceaux ? Symétriquement, le monde peut-il se passer de ce formidable outil d'endettement qu'a été la titrisation ? Et aussi, est-ce qu'il y a trop de marché, ce qu'on a souvent tendance à dire en France, ou est-ce qu'il n'y en a pas assez, puisque l'un des mécanismes clés dans le fait que la crise se répande, ça a été le fait que tous ces nouveaux titres émis n'avaient plus de marché. Et quand il n'y a plus de marché, on fixe des prix qui sont des prix de la dernière transaction, qui ne sont pas des prix de marché, qui sont des prix très très, très, très épisodiques et qui sont des prix absolument aberrants. Et c'est ce qui s'est produit, et ça doit être un rôle absolument clé dans la direction de laquelle nous avons l'occasion d'y reparler. Pour répondre à ces questions tout à fait majeures, nous avons un très bon plateau, je vais vous le présenter dans l'ordre des interventions. D'abord, nos deux conférenciers, Patrick Artus, qui est directeur de la recherche et des études de Natixis. C'est l'économiste le plus prolifique de la place de Paris. Il sort en moyenne 3 études par jour. Il vient de diriger un cahier du Cercle des économistes qui éditerait la crise financière, causes, effets et réformes nécessaires. Donc il va faire une synthèse. Et il s'apprête à sortir un nouveau livre, Globalisation, le pire est à venir, avec ma consoeur Marie-Paul Virard. Il vient d'en sortir un sur les banques centrales qui s'arrachent en numérique, ce qui est tout à fait ce qui est un exploit. Et il est aussi par ailleurs professeur à Polytechnique, à Paris 1, membre du Conseil d'analyse économique et membre de la Conseil économique de la Commission économique de la Nation. Et il organise évidemment l'un des événements majeurs des journées économiques qui se tiendront en novembre. Et il soutient que la crise est finie, alors que je titrerai mon éditorial d'aujourd'hui une crise sans fin, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi. Pierre Jaillet est depuis tout récemment directeur général des études et des relations internationales à la Banque de France, où il a occupé son tout premier poste d'économiste. Il était passé par l'INSEE, par la Commission européenne à Bruxelles, au sein de la Task Force qui était chargée de coordonner la préparation du traité de l'Union monétaire, Union économique et monétaire, et il a aussi travaillé au FMI. Et puis nos deux grands témoins, Olivier Klein. Olivier est président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, évidemment une des grandes banques de la région, qui est présente sur tous les métiers de la banque et de la finance. Il est aussi professeur d'économie et de finance à HEC et membre du comité scientifique de l'école doctorale en sciences de gestion de Paris 1 HEC. Il a fait tout un parcours bancaire, donc il connaît la banque parce qu'il a travaillé à BFCE, à Natixis, puis en groupe CIC, avant de venir au Caisse d'Épargne. Et enfin, Pierre Moussa, je dis enfin parce qu'il était temps qu'on ait un nom financier pour parler de choses financières. Pierre a travaillé dans plusieurs entreprises, je ne sais plus, chez Bosch et au Print, et il dirige une entreprise industrielle qui s'appelle LM Réalisation, qui fait de la sécurité, des coffrets de protection pour les matériels informatiques et électroniques, et puis aussi de la protection plus immatérielle. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 25 ans, mais qui ne se contente pas d'être un industriel, il est aussi très actif dans la représentation patronale, il a été au CJD pendant 10 ans, il y a CGPME et il est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Patrick, à toi de commencer.